Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant Jésus-Christ en nous par le Saint-Esprit. Et nous arrivons à l'étude numéro 18. Le titre de notre étude d'aujourd'hui sera « Le désespoir signifie l'anéantissement de toute possibilité de croire. » Il est vrai que nul ne pourrait aujourd'hui évaluer le nombre d'enfants dans les grandes villes qui sont affamés et partent à l'école sans avoir pris leur petit déjeuner. Il s'agit probablement d'un chiffre immense. La meilleure école ne saurait remédier aux lacunes intellectuelles d'enfants qui ont faim. La barbarie de l'exploitation des enfants par le travail dans certains pays, la violence avec laquelle des parents énervés et épuisés battent leurs enfants, sont plus étroitement liés aux soucis, à la détresse d'une lutte pour la vie que l'on veut généralement l'admettre. Voyez-vous, là où cette faute grave de la société humaine se trouve le mieux mise en lumière, c'est dans la misère insondable qui conduit des milliers de personnes sur le chemin immonde de la prostitution. Le trafic de jeunes corps pour un piètre butin est le meilleur indice de la pauvreté. Le chômage et les salaires dérisoires favorisent le développement de la prostitution. Le nombre de naissances illégitimes augmente donc proportionnellement à la pauvreté. La pauvreté est étroitement liée à la déchéance. Ce sont toujours les filles des pauvres qui finissent sur les trottoirs et dans les bordels. Leur destinée est d'y perdre leur dignité humaine. Il faudrait que chacun de nous puisse se rendre compte de leur malheur. Elles maudissent leur existence. Elles s'effondrent, désespérées devant la faiblesse de certains hommes. Elles meurent dans un hôpital ou vont même se suicider. Il faut s'en rendre compte, ne serait-ce qu'une seule fois. Oui, voilà ce que provoque l'indifférence du prochain qui conduit les enfants à la misère. La corruption te salue partout à travers les créatures qui errent dans ces longues rues obscurcies, on peut dire obscures et sans amour, et surtout sans Dieu. Lugubre est donc le chemin. Le monde entier est triste à en mourir. C'est ce qu'a écrit Nikolaus Lenau dans Einsamkeit à Leipzig. Ces rayons noirs qui nous atteignent et qui viennent du monde, si proches et pourtant si éloignés de la misère, ce sont des signaux. Les ténèbres de la misère ont besoin de lumière. Nous résistons, mais l'appel est incessant. Il nous contraint à reconnaître que tout est lié dans cette misère. Nous avons du mal à en conclure que nous tous, dans la vie que nous menons ensemble, nous portons une grande part de responsabilité. Nous ne pouvons pas négliger notre devoir. Il nous faut comprendre la misère du monde. reconnaître que notre individualisme et notre indifférence en sont le terreau. L'égoïsme engendre la crise du logement qui est l'une des principales causes de la misère. La manière déplorable avec laquelle les ouvriers sont traités par les patrons du capitalisme dans certains pays montre clairement l'écart entre le travail fourni et le salaire payé. L'exploitation des travailleurs représente une injustice à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. Nous avons avantage à ce que un juste salaire soit dû à celui qui travaille. Notez 1 Timothée chapitre 5 verset 18 et Jacques chapitre 5 verset 1 à 5. Dans ces questions sont prises au sérieux et il faut donc retrousser ses manches. Il ne s'agit pas seulement de consulter de la littérature spécialisée. Il faut avant tout se mettre en contact avec des personnes qui font un travail social dans le monde ouvrier. Avec elles, il faut visiter les lieux de la misère, garder ouvert cœur et porte en faveur de tous les malheureux. On passera ainsi d'une communauté de sentiments avec la misère à une communauté d'expérience et d'engagement. Chers amis, la misère actuelle nous renvoie une image de notre culpabilité, du sort vers lequel s'avance le monde et toute l'humanité. Ici, il s'agit bien de tous, pas seulement d'un petit nombre. Tous sont coupables. Le plus terrible dans ce sort qui échoit à l'humanité, c'est son caractère inéluctable et universel. Personne ne peut le fuir pour y échapper. Ce caractère inéluctable du malheur et de la faute représente l'ultime aggravation de la souffrance, sans laquelle la misère ne serait pas totale. L'humanité des tentatives pour y remédier, la désillusion qui suit les élans humanitaires pour la vaincre, mène à un désespoir pire qu'un simple dégoût de la vie. Qu'il s'agisse d'une lassitude causée par la fatigue ou d'un désespoir cruel, on en oublie rapidement la négation de l'existence et le mépris de l'être humain. Nous voyons alors combien nous étions loin, loin de notre victoire. Beaucoup aujourd'hui sont désabusés dans leur plus grande attente. Ils se sentent complètement découragés parce que le plus sain de leur espoir a été déçu et s'est effondré. Ils n'arrivent pas encore à comprendre que la désillusion libère des fausses attentes. Elle laisse place à une foi authentique, sans laquelle tout espoir ne reste qu'un mensonge creux. Nous sommes encore loin de cette foi. Le doute semble ronger tout espoir, le doute de tout, de la volonté et des possibilités de l'être humain, de l'histoire universelle, d'un avenir ultime pour l'humanité. Pire encore, le doute devient incertitude quant au sens de notre destinée. Oui, beaucoup abandonnent l'espoir qu'ils pourraient placer dans l'esprit parce qu'ils voient partout le démon, l'égarement, l'intérêt particulier et surtout la trahison. Ce doute sournois qui touche tout ce qui subsiste de bon dans l'être humain, se transforme en un doute quant à la destinée et au but de notre vie. Il s'insinue en nous jusqu'au tréfonds de notre existence et nous pousse à la limite d'un désespoir absolu. Le désespoir représente le dernier enfer dans lequel il est possible de s'enfermer. Il signifie l'anéantissement de toute possibilité de croire. Il marque la fin de toute espérance. Il exclut l'amour. Il rend impossible la poursuite de la vie. Le désespoir est le caractère définitif de la destruction, de la décomposition causée par la mort. Le désespoir nous fait ressembler à Prométhée. Dans le mythe de l'Antiquité, Prométhée est dévoré sans cesse sous l'ardeur du soleil. Son mal apparaît comme une torture purement physique. Prométhée a pris le feu en faveur de la race des hommes. Ce faisant, il voulait permettre aux humains de dépasser la misère de leur existence bestiale. Il doit maintenant supporter, impuissant et totalement désarmé, l'aigle de Zeus qui dévore son foie jour après jour. Cette incessante torture physique, est destinée à lui infliger des souffrances continuelles pour l'éternité. Notre cœur est dans le même cas quand il ne cesse d'être déchiré par la misère du monde. Depuis les temps les plus reculés, ces blessures du foie en furent le symbole. Le poète Eschyle a donné à cette ancienne légende un sens profondément spirituel. Il a utilisé la souffrance de Prométhée pour parler de la torture de l'âme dans l'esprit, dans la vie intérieure. Dans la légende, celui qui a volé le feu s'est aventuré en faveur de l'humanité dans une lutte titanesque contre la divinité. Il doit maintenant endurer le plus grand des tourments. Il doit vivre dans le désespoir. À ses yeux, la divinité, ce qu'il y a de plus grand et de plus saint, apparaît désormais comme un voyou injuste et jaloux. Pour lui, ce qui arrive dans le monde n'est plus que malheur, sang et puanteur. La divinité digne d'honneur est devenue pour celui qui a pris le feu un être égoïste et satanique. Elle décide de le condamner à l'enfer parce qu'il a osé, lui, qui était mi-homme, mi-dieu, prendre ce qui est bon sans aucune permission. Prométhée est attaché au rocher avec sa révolte, avec sa rébellion, sa haine. Tandis que l'aigle déchire son foie, son tourment devient extrême. Il sombre donc dans le plus profond des désespoirs. Ce qui le fait souffrir, c'est l'abandon du Dieu de l'inimitié et de la divinité. Le doute s'est donc transformé en désespoir. Il ne peut tout simplement pas exister de Dieu qui serait capable du bien. Comment pourrait-il en être autrement quand dans ce monde rempli d'injustice, les hommes sont victimes de tellement de maux? Chers amis, quand l'homme désespère, Dieu est absent. Quand nous désespérons de Dieu. Mais quand nous désespérons de Dieu, nous désespérons de tout, y compris des hommes, de l'humanité et de la vie. Prométhée pouvait désespérer, il lui manquait l'intelligence d'une révélation d'ensemble selon laquelle ce ne sont pas les progrès de la culture qui pourraient venir en aide à l'humanité déchirée, mais ce Dieu seul que l'homme a perdu, celui de la vie et de l'amour. Lui seul peut redonner un avenir à l'existence et non pas les séducteurs, les destructeurs chargés de cadeaux empoisonnés. Prométhée pouvait désespérer parce qu'il lui était impossible de connaître l'esprit de communion qui répand la bonté créatrice, ni son ultime combat contre les forces de division et de destruction qui appartiennent aux sombres puissances du feu. Finalement, désespoir et foi sont en lien avec Dieu. Il est donc clair que le péché est une séparation, oui, c'est une séparation d'avec Dieu. Le péché nous écarte de Dieu qui est la source de l'unité de la vie. La racine de toute misère, comme Jésus l'a reconnu, est le rejet de Dieu. La détresse de la conscience qui faisait souffrir Martin Luther, ce fut la peur du Dieu juste. Martin Luther craignait d'être rejeté, loin de la présence de Dieu, à cause de sa colère. La foi croit en Dieu comme l'esprit de communion. C'est précisément parce qu'il est l'esprit de communion, et seulement pour cela, qu'il est pour l'homme. Oui, il représente la vocation que Dieu a assignée à l'homme. Le désespoir, c'est la solitude, une relation rompue, une situation brisée. C'est le contraire de la foi. La foi est confiance et communion. Confiance en une unité qui triomphe de toutes les contrariétés. Seule la foi est en mesure de porter la misère du monde parce qu'elle est l'unique source de communion. Elle est beaucoup plus forte que toutes les séparations et toutes les divisions. Seul un amour qui vient de la foi peut puiser de la force dans la souffrance, une force capable de vaincre. Seule la foi peut passer d'une situation d'extrême passivité dans la souffrance à l'intense activité d'un nouvel accomplissement. Comme il n'y a pas de foi sans Dieu, il n'y a pas d'amour non plus sans la foi. Pour terminer cette courte étude, il y a toujours des hommes qui désespèrent, car partout la lumière divine encourt le danger d'être obscurcie. Le désespoir nous menace tous. L'esprit de l'adversaire travaille en nous. Il fait croire que le feu humain, cette puissance de mensonges et de divisions que est le progrès de la culture avec ses conditions démoniaques d'existence, serait un secours pour sortir le monde actuel de sa misère et de son malheur. Mais il reste aussi partout des hommes de foi, parce que la lumière éternelle, cette lumière de la bonté et de la communion, brille dans toutes les ténèbres et ne saurait être engloutie par elle. Notez Saint Jean, chapitre 1, verset 5. Pour terminer, la révélation de la lumière créatrice illumine tout homme qui entre dans l'obscurité de ce monde. Amen. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement et pour votre édification. Habituez-vous à la générosité du Seigneur. Oui, habituez-vous à cette générosité de tous les instants, mais en le faisant, invitez aussi ceux que vous aimez à la partager. En regardant à vous comme à un ami qui, humainement parlant, peut les aider, c'est de Jésus qu'il s'approche et par vous qui vivez sans ou dans sa communion, c'est Jésus qu'ils finissent par aimer pour s'attacher à lui, eux aussi. Donc, au lieu d'inviter les gens à tout de suite recevoir Jésus-Christ d'une façon ou d'une autre, cherchez tout d'abord à découvrir leurs besoins du moment. Alors seulement, vous leur parlerez de lui comme de celui qui peut pleinement y pourvoir. Il arrive souvent qu'on n'éprouve en rien le besoin d'un sauveur. C'est bien plutôt un ami qu'on cherche. Parlez alors de lui comme du grand ami. Ou bien on ne désire nullement un guide, on veut simplement être compris. Dans ce cas, montrez en Jésus le Christ qui toujours comprend ceux qui s'adressent à lui. Quand il s'agit des besoins des uns et des autres, comptez sur Jésus-Christ pour les satisfaire comme il le fait pour vos propres besoins. Maintenant, prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, ta parole nous parle en vain si tu ne répètes ce qu'elle dit dans le cœur. Daigne donc nous faire entendre ta voix et nous diriger par ton Saint-Esprit dans l'œuvre si importante de notre salut. Ô Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, toi qui nous as sauvés, combien tes voies sont admirables. Que ferions-nous sans toi? Toi seul peux éclairer le cœur ténébreux, purifier le cœur souillé, fléchir le cœur indompté, fixer le cœur inconstant, vivifier le cœur mort, spiritualiser le cœur terrestre, élargir le cœur égoïste, consoler le cœur affligé, tout froid, tout glacé qu'il est, tu peux en faire un cœur de pur amour. Tu peux être toi-même dans le cœur par le Saint-Esprit. Oh, que ton nom soit béni, soit la joie, le soutien, la confiance de nos âmes dans toutes les circonstances, paix dans le trouble, consolation dans le chagrin, santé dans la maladie et vie dans la mort. Seigneur, préserve-nous de tout péché. Soulage les âmes travaillées et chargées. Donne-leur la foi et l'espérance. Bénis nos familles et nos amis et daigne recevoir notre imparfaite prière par le Saint-Nom et pour l'amour de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, encore une fois, merci pour l'intérêt que vous portez à toutes ces études, aussi la patience que vous avez de les écouter. Et souvenez-vous que Dieu vous aime. Et si Dieu vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est mon devoir de vous aimer et de vous demander que nous puissions prier les uns pour les autres. Et je vous embrasse tous de tout mon amour. Soyez bénis et à demain pour la suite et fin de cette série. Et ensuite, nous commencerons une nouvelle série. Dieu voulant, à bientôt. Au revoir.